Bonjour et bienvenue au One Club, le podcast BD bimensuel qui va bientôt reprendre le boulot. Oui, parce que vous voyez, en fait, quand on fait des One A Club, on travaille, mais on se fait plaisir aussi. Et là, on va devoir prendre du vrai travail, et c'est dur. Je suis One A Pied, je suis accompagné de Thio et Isaac. Et nous allons vous parler pendant au moins une heure, parce qu'en général, on fait rarement moins, de bande dessinée.
Et d'un online.
Et Thio a du online.
C'est un numéro exceptionnel.
Thio a du online. Au programme de cette émission exceptionnelle... Alors le online de Thio est vraiment très très effrayant. Nous allons parler dans la rubrique Il était temps de Esteban numéro 1 de Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Dans les bacs, dans les dernières sorties, nous parlerons de L'invention du vide de The Good numéro 9, de Ralph Azam numéro 3 et de Seul numéro 7, mais on l'a déjà fait donc je dis une connerie. Et nous parlerons de Complainte des Landes perdues en splash page. On continuera par du online, où tu fais aussi du online, Thio. Isaac va pas être très présent sur cette émission parce qu'en fait, il n'a rien lu.
Hein? Bah, en fait, je suis parti en vacances, alors j'ai pas pris des BD.
Voilà, monsieur est parti en vacances, il prend pas de BD en vacances. Tu ne sais pas vivre tes vacances comme il faut.
Non, j'avais des enfants avec moi.
Oh mon dieu. Et bah alors, tu leur lis des BD. Par exemple, tu leur lis The Goon.
C'était les îles Vierges britanniques qui passaient juste à ce moment-là, disons.
Oui, parce que nous sommes en pleine session des JO pendant l'enregistrement. Voilà, en plein, voilà, parce qu'on enregistre bien en avance comme à l'habitude. Et puis je crois qu'avant qu'on ne dise que des conneries.
On va commencer.
On va envoyer les news avec Merton s'il n'est pas en vacances.
C'est les news.
Bonjour Merton.
Hello, hello.
Comment se passent tes vacances?
Ben écoute, ça se passe très bien, tout est calme, voilà, c'est la France en août.
Tu bronzes sur la plage de Carazan?
C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Mais non, mais c'est la France en août, de toute façon, il ne se passe rien, c'est calme, c'est bien.
Oui, donc pour les news, en fait...
Il se passe pas grand chose, hein. La rentrée BD, c'est pas encore maintenant. Alors, du coup, on sent bien, hein, on reçoit plus de communiqués de presse, on reçoit plus rien. La France est au ralenti.
Du coup, on va gratter les news de fin fond de tiroir et puis je vais te donner carte blanche pour raconter des trucs.
D'accord, ça me va.
Ça te va. Alors, on commence par un petit truc qui se serait fait avec Rock en scène, un bouquin aux éditions de La Martinière qui pose certains problèmes.
Alors exactement, c'est Tanks qui a donc, je dirais, mis ça sur le devant de la scène. Hein, c'est-à-dire qu'elle a été contactée par La Martinière, qui lui ont dit « Est-ce que ça te dérange pas que les illus que tu as fait pour Rock en scène soient dans le bouquin qu'on édite pour les 10 ans du festoche ?»
Ouais.
Donc, elle commence à négocier les droits, normal.
Oui, négocier les droits, ouais, tout ça.
Normal. Et là, la fille lui donne les spécifications en disant « Attendez, je regarde le livre pour vous dire ce que c'est. » Donc, en fait, le livre était déjà imprimé, édité et prêt à être publié. Et ils se sont dit, juste après avoir fait tout ça, que ce serait peut-être bien de payer les illustrateurs. Ça, je dirais que ça chauffe un peu en ce moment. Et d'après,
Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est une personne qui ose ouvrir sa gueule ou si parce qu'elle est habituée de se faire enfler, pour être poli, régulièrement.
Je dirais qu'en voyant les messages des autres élus, enfin des autres artistes illustrateurs sur son Facebook, on a plutôt l'impression que c'est le genre de choses qui arrive souvent, mais que ça va pas forcément aussi loin parce que au moins Tanks, elle ouvre vraiment sa gueule quoi. Elle a même monté un petit Tumblr là qui s'appelle Salut l'artiste, qui regroupe tous les messages qu'elle reçoit pour lui demander de travailler gratos.
Donc, ah oui, ça te fera de la pub, ouais, le classique.
Ouais, ça te fera de la pub. C'est un petit Tumblr plutôt marrant, mais je dirais qu'elle, au moins, elle ose ouvrir sa gueule, et c'est pas parce que c'est la martinière en face que... Ah oui, toujours le côté, ça te fera de la pub, il y a du prestige, machin. Oui, mais ça paye pas le loyer à la fin du mois quand même, hein, tout ça.
Ouais. Mais alors après, ça a quand même eu des conséquences un peu bizarres. C'est-à-dire que l'auteur du bouquin s'en est pris plein la gueule lui aussi, alors qu'en fait, il n'y est pas pour grand-chose, à ce que j'ai cru comprendre.
Bah, de toute façon, c'est pas l'auteur qui va négocier les droits un par un derrière, quoi. Enfin, ça, c'est quand même le boulot de l'éditeur. Et bon, apparemment, c'est aussi le côté, il a fallu qu'ils aillent super vite pour sortir le bouquin à l'instant T. Ils ont un peu zappé ce côté-là, d'aller demander les droits aux illustrateurs. Je pense que c'est assez symptomatique de comment ils sont perçus dans la société ou dans tout ça.
Alors qu'apparemment, les photographes, c'était déjà réglé.
Bah oui, bien sûr, la photo, oui, c'est toujours réglé. Mais les illustrateurs, voilà, ils avaient été oubliés. Donc là, Zout, elle mettait sur sa page Facebook justement que un peu d'essayer de se regrouper avec tous les illustrateurs qui seraient peut-être dans le bouquin et qui voilà pour essayer de monter un petit collectif pour essayer juste d'être payé quoi pour être dans le bouquin. Donc voilà, mais ça en dit long et allez voir le Tumblr, ça te fera de la pub parce que vraiment on envoie des belles et des pas, enfin ils envoient des vertes et des pas mûres quoi.
Oui et puis apparemment les auteurs sont un peu ennuyés parce qu'il leur faudra acheter le bouquin pour savoir s'ils sont dedans.
C'est ça. En fait, pour le moment, ils ne savent pas qui est dedans et qui n'y est pas. Donc, en tout cas, le bouquin, si on va sur le site de La Martinière ou quoi que ce soit, il est déjà annoncé. Déjà, voilà, on peut.
Super.
Voilà, ils devront donc regarder sur le site.
Surtout qu'en plus, ce Tanks fait de très très belles affiches en général.
Complètement.
Moi, j'aime beaucoup son travail d'affichiste. Donc,
Mais c'est vraiment triste quoi qu'on. Enfin, c'est vraiment symptomatique de quelque chose, de comment sont vus les dessinateurs. Ouais, c'est toujours la dernière roue du carrosse quoi. C'est un peu triste.
Et voilà, c'était la news triste de l'été. On verra, je pense à la rentrée, ça va un peu bouger. On aura plein d'annonces, de trucs, de bidules.
Oui, ça va commencer là. Ça va commencer à s'activer. Ça va commencer à s'activer dès la semaine prochaine, je pense.
Et là, donc, on va parler un peu de ta carte blanche. Tu vas nous parler d'un jeu de société basé sur une bande dessinée dont le numéro 100 vient de paraître il y a peu de temps, le mois dernier, je crois, hein, aux États-Unis. The Walking Dead, le jeu de plateau. Oh, trop bien,
Exactement.
The Walking Dead.
Exactement.
Le jeu vidéo, pareil, il est génial. Alors, le jeu de plateau.
Alors, le jeu de plateau, je dirais que l'éditeur, là,
pardon, excuse-moi, on a un petit souci sonore. Je vais pas faire genre, je vais pas te dire, on va couper. Je ferai ça au montage parce qu'après j'oublie. Donc, je pour que tu puisses te reprendre. Donc, vas-y.
Le jeu de plateau, donc, nous a été envoyé par l'éditeur. Donc, alors, comme il y en a deux, c'est celui avec les vraies illustrations de Charlie Adler. Hein. C'est pas l'autre.
Quoi, il y en a un sans les vraies illustrations.
Ouais, il y en a avec, qui reste dans l'univers, etc. Mais pas avec ils n'ont pas repris Charlie Adler pour faire des élus. Ils ont repris des choses des comics, etc. Là, c'est vraiment toutes les cartes en fait ont été redessinées par Charlie Adler.
D'accord.
Donc en fait, j'étais super content. Je me disais vraiment, ça va être sympa. Alors j'ai pris quelques copains et on s'est décidé à faire une partie. Le problème, c'est que on est dans l'univers du comics, mais complètement. C'est-à-dire que pour un jeu, je ne sais pas si c'était vraiment adapté. Dans le sens où la moindre rencontre avec des zombies peut être fatale et mettre fin à ta partie, en fait.
C'est un jeu collaboratif ?
Alors, collaboratif, oui et non. C'est-à-dire que tu as le droit de faire des groupes avec les autres joueurs, s'ils sont d'accord. Mais à n'importe quel moment, il peut te dire « je te laisse là et moi je me casse avec mes alliés ».
Il n'y a pas un côté un peu à la, je pense au jeu de plateau Battlestar Galactica, je ne sais pas si tu le connais.
Ah, très bien.
Voilà.
Je passe ma vie, ce jeu.
Voilà, donc le jeu de plateau où il y a des silons dans le groupe, puis il y en a, ils ne le savent pas.
Ben, alors là,
ils ne savent pas qu'ils sont des traîtres.
Là, en fait, non, quand tu fais un coup de pute, tu le fais sciemment.
D'accord.
Et voilà, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand toi, tu as récupéré assez de munitions, assez de nourriture et assez d'essence pour te casser, et assez de compagnons, parce que les compagnons, c'est quand même plutôt important, tu laisses ton copain sur le bord de la route et tu vas exploser les lieux.
Ouais.
Là, tu as fait pareil, petit problème sonore sur la fin de ta phrase.
Donc, je disais, le but du jeu, c'est d'explorer trois lieux, et c'est de plus en plus dur à chaque fois d'aller de lieu en lieu, parce qu'à chaque fois qu'on bouge, il y a des zombies qui apparaissent.
D'accord.
Donc vraiment, l'ambiance de la série est bien retranscrite, parce qu'on est vite avec un plateau qui est rempli de jetons zombies, et on sait que si on y va, on a de grandes chances de mourir. Le problème, c'est que du coup, ça se transforme en jeter des brouettes de dés pour savoir si on arrive à passer ou non les épreuves, et qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de hasard, en fait. C'est-à-dire qu'on peut faire la meilleure stratégie du monde pour essayer de gagner. À la fin, si on n'arrive pas, en lançant sa brouette de dés, à faire ce qu'il faut, ça ne marchera pas et on pourra rester planté pendant très longtemps, et la partie peut comme ça un peu s'éterniser.
Alors, donc, je vais te poser la question à laquelle tu n'auras sans doute pas la réponse. Est-ce qu'il existe des modes du jeu pour... Parce que je sais que souvent dans les jeux de plateau, quand il y a beaucoup de hasard, des mecs s'amusent à rebosser les règles pour virer le hasard autant que possible.
Exactement. En fait, il faut que j'aille sur Trick Track là, pour justement chercher des trucs comme ça. Mais en tout cas, les illus sur les cartes sont quand même super belles. Je dirais que j'en jouerai pas des dizaines de parties, mais ça reste sympa. Et puis pour les fans du comics ou de la série télé, c'est pour ceux qui connaissent pas le comics, on est vraiment, par contre, vraiment plongé dans l'univers. C'est-à-dire ce côté, dès que tu pars de quelque part où il y a des ressources, tu sais que tu ne pourras pas y revenir parce qu'il y aura des zombies et tu es forcé d'être toujours en mouvement sur le plateau, quoi qu'il arrive. Quoi.
D'accord.
Et tu as les petites trahisons entre amis qui font que ça peut quand même être assez marrant. Mais voilà, je dirais, je jouerai pas des heures et des heures à ce jeu. C'est trop de hasard. Donc, après, peut-être, comme tu dis, en trouvant des modes. Mais en tout cas, voilà, c'était quand même plutôt sympa les premières parties. Au fur et à mesure, je m'ennuyais un peu.
Et maintenant, on continue un peu le côté à liberté pour Merton.
Ouais, j'aime bien.
Là, on va revenir donc sur une BD. Tu as déjà parlé de cette BD-là il y a un peu plus d'un an.
Je suis fan.
Quand tu étais notre invité à l'époque.
C'est ça.
Voilà.
J'en ai déjà parlé.
Voilà, à l'époque, je ne t'exploitais pas. Tu étais notre invité. Tu avais droit à tous les honneurs et tout. Maintenant, je te fais bosser. Et donc, tu vas nous parler de Sans emploi, le tome 2 de JB.
C'est ça. Alors, il est sorti quand même il y a quelques temps. Je l'ai lu, moi, il n'y a pas longtemps parce que j'avais du retard. Hein. Enfin, voilà, c'était un peu... Puis là, c'est les vacances. Alors, du coup, j'ai pu m'y remettre. Et j'ai enfin donc pu lire le tome 2 de Sans emploi qui s'appelle Marche ou rêve. Et moi, je suis toujours aussi fan de JB, hein, de ce qu'il peut faire sur son blog ou même en nous envoyant des messages sur 3DS. C'est vraiment plutôt sympa.
Oui, il faut le suivre sur 3DS, c'est génial ce qu'il fait sur 3DS, moi j'adore. C'est les seuls messages que je reçois et ils sont drôles.
Voilà, et après, on n'a plus envie d'envoyer des messages dessinés à ses amis parce qu'on a l'impression d'être mauvais, mais ce n'est pas la question.
C'est ça.
Donc voilà. Et là, donc, j'ai pu lire le tome 2 et ce que j'aime bien, en fait, dans cette BD, c'est qu'il a décidé de recréer une histoire, en fait. C'est-à-dire que Sans emploi, c'est un blog, mais la BD en elle-même suit une ligne narrative qui est différente de celle du blog. Alors, on retrouve quelques gags, etc., des choses que moi, j'avais bien aimées sur le blog. On reste en terrain connu, mais la trame narrative de base est différente. Et ça, je trouve ça vraiment bien, dans le sens où ce n'est pas juste un copier-coller d'un blog. Il se fait chier pour ses lecteurs et je trouve ça vraiment, vraiment cool. Dans le tome 1, Constantin était parti. Il pensait être parti au Japon, il était parti en Chine à la place ou l'inverse, je ne sais plus, bref. Et là, en fait, il revient après son périple. Et c'est vraiment une BD, moi je la conseille. Il faut acheter le tome 1, le tome 2, puis il y aura certainement un tome 3 vu la fin du tome 2. Et c'est vraiment une BD, il faut la lire, quoi. Hein. Les péripéties d'un chômeur qui essaye de s'en sortir. Alors qu'il est, c'est le loser de base qui arrive à rien faire, c'est vraiment juste formidable, quoi.
Ok. Merci Merton. J'espère que tu te reconnais un peu moins dans le personnage que quand tu nous en as parlé la première fois.
J'ai un vrai travail, hein. Mais je retrouve quand même des choses de mon vécu.
D'accord. Ouais, t'as un vrai travail, pas comme tous ces artistes. Et donc.
Exactement. Oh mon Dieu.
Ah. Merci Merton. On se retrouve dans un mois pour de nouvelles news. Et là, j'espère qu'on aura de quoi parler.
Oui, il y en aura plein.
Allez, ciao.
À bientôt. Ciao, ciao.
Ben, j'espère que Merton n'était pas en vacances et que nous avons pu entendre ces news fantastiques. Je ne désespère pas un jour de faire une vraie émission live avec tous les gens qu'on a d'habitude à distance.
Il y a trop d'enfants, je pense, dans nos vies maintenant.
Ouais. Parce que ça serait cool quand même d'avoir Merton. Et arrête de regarder la télé. Ah, ce serait cool donc d'avoir Merton et Matt avec nous pour l'émission. On démarre.
Il était temps. Nouvelle œuvre de la bande dessinée ancienne.
Esteban numéro 1. Il était temps, oui, Esteban numéro 1 était offert avec le volume 7 de Seul, ce qui est quand même vachement cool, ce qui montre surtout que Dupuis veut vendre cette BD, nous la faire connaître, car le dernier tome vient de sortir. D'ailleurs, pendant un mois, Esteban avait été gratuit sur Isneo, car tous les mois, une BD est gratuite sur Isneo. Je le rappelle, ça permet de se faire une idée de ce mode de lecture. Esteban est une bande dessinée de Mathieu Bonhomme qui nous raconte les aventures du jeune Esteban.
Sans IA et sans Tao.
J'attendais que quelqu'un fasse la blague. Je m'étais retenu. Et donc, qui est un jeune qui vit dans un bled paumé du côté... C'est où? C'est gros. L'Antarctique, oui, je suis nul en géographie.
Je tiens quand même à préciser que ma vanne toute pourrie sur Zia et Tao, à un moment donné, quand on regarde la couverture, qu'on voit un mec sud-américain avec un pendentif rond, jaune, accroché à un navire qui part à l'aventure.
Oui, oui.
Si on cherche pas à un moment donné la petite référence, c'est qu'elle nous saute aux yeux, quoi.
Tu l'as lu?
Oui, pas fini, mais en moitié.
Donc, qui est du côté de la Terre de Feu et qui... Argentine, Terre de Feu, tu vois. Et qui, en gros, alors qu'un drame arrive dans sa famille, un drame terrible où, en gros, tout le monde se fait exterminer, décide de retrouver quelqu'un qu'on lui a recommandé.
Bah, il vient quand même de perdre son père. Sa mère vient s'est isolée sur une île pour la période de deuil. Et lorsqu'elle revient de sa période de deuil, qu'elle souhaite quand même continuer, elle se fait trucider. Ça commence vachement bien comme histoire.
Ouais, il a une vie cool.
Ça commence comme un Disney avec un bon génocide.
Ouais, c'est ça.
Et oui, Bambi.
Voilà. Et donc, il décide de se faire embaucher sur un baleinier parce qu'il est super fort au lancer de harpon. Sauf que c'est bien de lancer le harpon, mais si t'arrives pas à passer la couenne de la baleine, c'est un peu la
vie.
Et donc, on va suivre les aventures de ce jeune garçon dans cette bande dessinée, ouvertement bande dessinée jeunesse, mais ce que je dirais plutôt tout public. Nous sommes au niveau du genre dans de l'aventure maritime. Thio, que peux-tu nous dire du dessin de Mathieu Bonhomme?
Ben voilà.
C'était vraiment très intéressant.
Non, moi, ça m'a fait penser beaucoup à la ligne claire, en fait, sa façon de dessiner, même si, du coup, après, il y a la couleur qui va donner justement de la profondeur dans le dessin.
Mais pas que la couleur, il y a l'ancrage aussi.
Moi, ça m'a fait vraiment penser à du. Presque, voilà, j'avais presque du Tintin, quoi.
Ouais, il y a ce côté ligne claire dans tous les designs, les designs des personnages, mais la façon qu'a Mathieu de Bonhomme au niveau de son ancrage. Enfin, il y a les crayonnés qui sont encore visibles, en fait. Moi, j'ai mis crayonné comme mot. Parce qu'il y a beau avoir cette ligne claire, il arrive à créer du relief et de la profondeur au niveau du dessin, quelque chose que j'avais beaucoup aimé déjà dans d'autres BD de Mathieu Bonhomme que j'aime beaucoup. C'était dans Messire Guillaume, qui est en noir et blanc pour le coup, donc on apprécie encore plus ce travail de l'ancrage et du crayonnage, hein, plus. Et puis c'est très dynamique, il y a une très très belle mise en scène, il sait très très bien utiliser les différentes tailles de cases, le passage d'une case à l'autre, mettre en scène l'action, le suspense. Et puis pour le coup, il a écrit et dessiné la bande dessinée. Le scénario, Thio.
Alors là, je vais sortir un truc qui est peut-être un petit peu piqué quand même, c'est Jack Holborn. C'est une...
Il n'avait pas eu de chanson dans la mission précédente.
Il avait fait enregistrement la chanson.
Ouais.
Il
t'a perturbé.
Il m'a perturbé.
Jack Holborn.
Jack Holborn, donc c'est une vieille série allemande.
Allemande. C'était allemand. Toi, t'as fait des recherches.
Je viens de regarder que c'était allemand parce que tu vois, j'avais pas les infos au départ.
J'aurais dit australien ou un truc comme ça. Non, c'est allemand.
Non, c'est une vieille série allemande. Donc.
C'est les mêmes acteurs que dans la clinique de la Forêt Noire.
C'est pas loin. Et donc du coup, qui date des années 80, et c'était l'histoire d'un petit orphelin qui pour éviter justement d'être miséreux, on va dire, sur Terre, veut devenir marin, quoi. Et donc il va donc sur Il va devenir petit mousse, voilà, sur le Charming Molly.
Je viens de penser à la pub Petit Mousse. Tu me dis à quoi on est 80, Petit Mousse. Et ça y est, c'est ce qu'il dit le cassis. Voilà, je suis désolé. Et Isaac a eu la même idée au même moment. Bon, tu sais ce qu'il dit le cassis. Ok, donc les aventures de Jack Bond, ça fait beaucoup penser à ça.
Voilà, hein. Bah écoutez.
Ouais. Moi, le scénario, j'ai trouvé que c'était très classique, dans un
très classique,
dans,
voilà,
dans un tome de comment, de zut, ouais, d'introduction. Je voulais dire d'exposition. Moi, j'ai été frappé par la scène très forte de départ. Au début, j'avoue que moi, j'ai mis que c'était étonnant le scénario parce qu'au début, ça m'a pas du tout donné envie. J'adore le dessin de Mathieu Bonhomme, mais alors l'histoire du jeune qui va devenir baleinier, etc. Et puis tu lis comment se dire la BD où t'as les gars qui reviennent sur leur barque de pêcheurs dans le bled paumé de l'Argentine, machin chose. Ça donne vraiment pas envie. Et là, t'as la suite qui arrive et là, tu fais ah ouais, quand même. Ah, ouf, ah oui, le départ, ça fait mal, quoi. C'est fait comme un pré-générique en plus parce que la page de garde arrive après cette scène d'introduction qui est très très dure. Et là, je me suis vraiment pris au jeu. Et ensuite, on reste dans de l'assez classique quand même. Hein. C'est le vieux capitaine difficile qui prend quand même balafré, qui prend quand même le môme sous son aile et qui sousse des airs durs et en fait assez sympathique.
Ouais, mais enfin, tu sens quand même qu'il là encore, il y a un secret sous-jacent.
Oui.
Qu'à mon avis, ouais, sans faire de mauvais jeu de mots, mais ouais, je pense qu'à mon avis, on va redécouvrir un petit problème peut-être de paternité, en l'occurrence.
Si c'est ça, c'est un peu gros, quand même, mais classique, effectivement.
Bah écoute, je sais pas, faudrait qu'on va lire les tomes, les prochains tomes.
Il y a 4 tomes, hein, pour le moment.
Je crois que le c'est le 4 qui est paru.
Ouais, je crois que c'est le 4 qui vient de sortir. Voir le 5, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était une série très intéressante. C'est une bonne série jeunesse d'aventure. Dupuis sort de plus en plus de séries, ce que je dirais, jeunesse, qui ne prennent pas les enfants pour des abrutis. Ce que j'aurais aimé lire, moi, quand j'étais môme, en fait, je pense.
C'est ça, c'est de la BD d'aventure qui, au-delà de l'aventure, t'apprend un petit peu des choses et te fait un petit peu rêver, t'emporte un peu en voyage. On n'est pas dans du Pokémon et autres trucs du même genre.
Et puis en plus, il y a tout un discours à la fois écologique, et on peut se dire, mais bizarre, pour un truc sur des baleiniers, quand même. Parce qu'en fait, ça se passe à l'époque où la pêche industrielle avec les navires à vapeur et compagnie commençait à arriver. Et où on commence à utiliser des armes plus costauds pour tuer les baleines, etc. Et là, c'est des pêcheurs traditionnels, le bateau sur lequel ils grimpent, et on voit un peu les techniques qu'ils ont de travail, quoi. On voit un peu comment est la vie de baleinier, on voit que c'est pas une vie facile. Et il y a vraiment ce côté, on sent qu'un des thèmes sous-jacents de cette BD, ça va être la lutte des baleiniers traditionnels pour leur survie, alors que face à la chasse industrielle, ils sont voués à disparaître avec le temps. Peut-être que c'est une allégorie de la bande dessinée traditionnelle face à la bande dessinée numérique, mais je m'égare.
Tu t'es un petit peu perdu.
Totalement.
Pour revenir sur la bande dessinée en question, moi, ce dont on n'a pas parlé, pardon, c'est de la couleur. La palette de couleurs est assez restreinte. Et on est sur des tons de gris-bleu, marron-beige, qui nous laissent dans une ambiance de travail un petit peu dur. On n'est pas à la fête, quoi.
Non.
On part pas en voyage en Amérique du Sud où c'est guinguette avec des jolies couleurs roses, rouges, revers, bleus, fuchsia.
Non, mais c'est l'Amérique du Sud, quoi.
Voilà, on est vraiment dans l'homme face à la nature.
Il y a des icebergs et tout, quoi. C'est le sud, le sud.
Et du coup, tu parlais de crayonné tout à l'heure. Le crayonné, justement, renforce un petit peu ce côté grisaille ambiante.
Ouais, qui est pas mal utilisé pour les trucs gris, le ciel, pour le...
Voilà, alors ce crayonné, il sert pour rendre ça et pour donner le relief, tout ce qui est ombrage. Est rendu par ce crayonné.
J'aime beaucoup cette technique, moi. Je trouve
c'est
le très travail sympa. Superbe.
C'est tout à l'heure, tu disais qu'on voyait les traits de crayonné, mais c'est pas les crayonnés de dessin, c'est le crayonné est là en colorisation, pour mise en relief. Quoi.
Ouais, mais je pense il est appliqué avant la couleur, je pense. Que la couleur est rajoutée après. Ça, donc, cas, tel que je le vois, je pense que en tout cas, quand tu regardes les bandes dessinées de Mathieu Bonhomme en noir et blanc, ce crayonné est déjà présent, en fait. Donc, je pense que c'est rajouté après. Ça me semble bizarre de rajouter du crayon par-dessus de la couleur ou en même temps. Enfin, en tout cas, Bonne BD que je recommande.
Bonne BD. Par contre, moi, je trouve que le seul défaut que je lui donnerais, quand même, c'est un petit peu, voilà, comme tu disais, déjà au niveau du scénario, le cliché du pitch de départ, et puis le capitaine qui, à mon avis, quand même, est un gros cliché du capitaine à cap, quoi.
Est-ce que, sur la baleine,
ouais, mais,
etc.
Mais est-ce que, mais est-ce que tu es obligé d'avoir tous les capitaines de baleiniers qui sont des clichés, quoi, du capitaine à cap? C'est bon, il y en a eu un. Ils sont peut-être pas tous pareils, quand même.
Je pense que c'est aussi, quand tu commences une bande dessinée sur un thème, t'es obligé d'être un peu dans le cliché, quitte à en sortir dans les tomes suivants. On sait que c'est une série qui est prévue sur du long cours, apparemment. Je sais pas comme s'il y a un nombre de tomes bouclés prévu. Tu sais, c'est un peu comme ces séries télé où t'as le pilote, où c'est cliché que t'en peux plus, et au bout de 2-3 épisodes, tu te rends compte que c'est plus fin que ce que ça en a l'air. J'espère que c'est le cas, en tout cas. Je sais pas si j'aurai le courage les sous de m'acheter la suite, mais en tout cas c'est une bande dessinée qui me semble intéressante, et que si je devais faire un cadeau à un ado, jeune d'une bande dessinée, je penserais beaucoup à Esteban.
Par contre, ayant vu on va dire la couverture du tome 4,
ouais,
je sais pas si l'histoire reste dans le domaine de la baleine.
D'accord. Comme Pinocchio. Reste dans la baleine. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. On retourne sur de la vieille bande dessinée. Alors là, en plus, on est sur de la BD.
Non, mais cherche pas celui-là.
Ouais, il est caché loin. On a encore la pile des anciennes BD. Donc on retourne sur de la vieille bande dessinée. Donc c'est une adaptation du livre du psychologue John Gray. Psychologue qui a fait quoi? Oui, il est vraiment psychologue, John Gray. Vraiment. Donc, du psychologue John Gray, qui est un best-seller, il y a eu des suites. Hein. Mars et Vénus prennent un bain, Mars et Vénus vont à la plage, etc.
Mars 1, Vénus 2
Non, ça c'était Delphine 1, Yvan 0, qui était très bien d'ailleurs.
Ouais, mais c'était le score sur lequel personne n'était d'accord, en fait.
Oui. Et donc, ça a été adapté par Paul Douandre Giffre et Nathalie Jomard, en se basant sur l'œuvre de John Gray. Alors, j'en avais lu un bout de ce bouquin original. J'ai pas lu en entier.
Bah, pareil, moi, bizarrement, en fait, ma femme a lu le livre.
Ah, moi aussi. Et ça va être le même, en fait.
Et ouais, et elle m'a dit, faut que tu le lises. Et j'ai commencé à lire royalement, peut-être les 10 premières pages. Et j'avais finalement passé mon chemin.
Le genre, nous avons dit psychobiba, et je pense que c'est justement ça, c'est de la psychologie telle que... Alors, on va être très réducteur, très sexiste, tout ce que vous voulez, on va se faire taper dessus un moment, c'est sûr, mais de la psychologie de magazine féminin, c'est pas faux, tout ce que tu lis est assez vrai, en fin de compte. Mais je crois qu'ils disent aussi que l'homme, il s'en fout de ces trucs-là, dedans. Un truc dans le genre, hein. Il a pas tort.
Il a pas tort.
Et je pense que tout ce qu'il propose est une bonne idée. Par contre, moi, ce que j'ai bien aimé, c'était l'approche humoristique, qui est dans le bouquin original, hein, quand même, il y a une approche assez humoristique, et qui là est exagérée dans l'adaptation, parce qu'effectivement, ils remettent en scène des petits travers de la vie quotidienne, comme on a pu le voir dans La Gars et une Fille, toutes ces séries qui mettent en scène des couples et compagnie. Hein. C'est un de tes mots, c'est ça?
C'est un de mes mots, Un Gars et une Fille.
Ouais, t'as mis Un Gars et une Fille pour le
scénario.
Pour
le dessin.
Ah, pour le dessin. Moi, pour le dessin, j'ai mis hystérique. J'aime beaucoup le dessin de Nathalie Jomard. Je trouve qu'elle a une façon de représenter les gens au bord de la crise de nerfs phénoménale. Ils ont l'air tous complètement malades, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'avoue que je suis un petit peu plus circonspect sur les couleurs du truc, qui sont un petit peu à la louche, quoi, les couleurs. Mais bon, on est purement dans un produit que je qualifierais de très commercial. Pas dans le sens négatif, dans le sens où, oh, si on prenait le méga gros best-seller pour en faire une bande dessinée. Et ça n'a pas échappé à Michel Lafon, qui a dû faire le bouquin original, et à Jungle, qui édite toutes les adaptations de trucs qui marchent en bande dessinée.
En conservant, bien évidemment, la même mise en page, les mêmes polices de caractère, les mêmes codes couleurs pour la couverture. Hein.
Ça, c'est dans le code.
On est
rendu
très, très commercial. Ceci étant dit, quand on lit, et ben voilà, ça se lit un peu comme un test de Biba ou un.
Tu rigoles, c'est sympa, c'est léger.
Un article d'une revue que tu chopes chez le Toubib ou que tu lis sur la plage en été.
Mais t'as déjà vu Biba, moi jamais en fait.
Malheureusement un peu.
Ouais. Ah, Théo dit non.
Non, moi j'ai jamais lu.
Enfin, moi, je trouve que c'est léger, c'est pas prise de tête, c'est sympa. Voilà, vous avez.
Le reproche qu'on a à lui faire, c'est que c'est trop cliché.
Voilà. Oui, mais c'est clairement, normal, c'est le sujet qui se veut.
Oui, bien sûr, puis, bien sûr.
Ce bouquin, c'est tellement bien vendu. Les thématiques qu'il déploie ont été tellement exploitées, justement, dans tous les sens. Je veux dire, ça fait combien de temps que ce bouquin est sorti? Ça fait plus de 10 ans, quoi, au moins.
Au moins.
Que forcément, on a tellement entendu ces trucs-là que quand on les relit, on se dit, tiens, j'ai déjà lu ça quelque part.
Mais justement, c'est là, tu dis, c'est sympathique, c'est souriant. Bah, ouais, mais c'est long, quoi. C'est long, c'est... Moi, je trouvais ça manquer d'intérêt cruellement, quoi. Le livre, pour voilà, oui. J'en ai lu 10 pages, hein, et finalement j'ai retrouvé exactement les mêmes choses dans la bande dessinée. Oui, c'est bien, c'est en grosso modo les bulles que tu avais, les petites images que tu avais dans la tête. Ouais, on te les a mis en couleur.
Bon. Bah, moi, pour le scénario, et j'attends vos rires, j'ai mis ressucé.
Moi, je mettrais éculé.
Oh.
Éducatif, un mélange entre l'éducatif et l'axatif. Voilà, c'est ce que sur quoi ça fait penser.
Bravo. Je crois que là on avait fait très très fort sur les mots. Voilà, bon, bah c'est la bonne BD à offrir à des gens qui lisent pas de BD.
C'est ça. Bah, disons que ça s'adresse du 22-26 ans, pas plus, pas moins. Oh,
même
parce
avant,
qu'après, avant, ils comprendraient peut-être un peu moins.
Ouais, c'est vrai que les couples. Avant,
voilà, il y a besoin d'un petit peu plus de références de couple. Après, par contre, voilà, la partie dessin, moi j'aime beaucoup. Hein, je suis un peu comme toi, Pierrick. J'aime beaucoup le dessin. Le personnage féminin garde beaucoup de sensualité, de charme, de féminité. C'est très agréable. Après, l'homme reste très caricatural dans sa beaufitude.
Oui, mais la femme aussi, je pense, mais qu'on le remarque moins parce que
elle est plus attachante, je trouve,
parce qu'on est du côté de l'homme. Mais disons, moi j'aime beaucoup Nadia Jomard. Elle a un blog qui est super sympa où elle te met des dessins où jeune parent, vous vous reconnaîtrez. c'est assez terrible.
Dans les bacs.
On arrive aux bandes dessinées qui sont sorties il y a peu. Et nous allons parler de L'invention du vide, une bande dessinée sortie chez Dargo, qui est un très 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 bel ouvrage de Nicolas Debon. Et c'est dans la collection Long Courrier, une belle collection en général et des beaux bouquins. L'invention du vide nous raconte une expédition pour tenter de réussir à gravir le Grépon, une grande aiguille, c'est dans le Mont Blanc, je crois, qui n'a jamais été vaincue par l'homme. Ça se passe en 1881. Et nous allons suivre les pauvres mecs qui ont essayé de le monter, l'équipe, donc montée par Memory, je crois, c'est le nom du mec, et des deux personnes qui l'ont accompagné, donc un guide local. Et son
dont on parle beaucoup, enfin qui parle beaucoup, et un troisième gars qui fait de la figuration.
Et c'est très bien réussi en fait.
Il fait bien de la figuration. Oui. Il est là sur toutes les images, mais il ne parle pas.
Qu'est-ce qu'on parle d'abord de ce qu'on a beaucoup aimé ou de ce qu'on a moins aimé?
Pour moi, il y a plus de choses quand même que j'ai aimé que de ce que j'ai pas aimé. Hein.
Voilà. On va commencer alors par le pas aimé.
Ah, on commence par le pas aimer, comme ça on finit sur du bon. Là.
On va dire le scénario. Alors, c'est du récit d'escalade, c'est du récit d'expédition qui a des qualités et des défauts. Au niveau du défaut, malheureusement, c'est que c'est plat. Ça manque.
Et pourtant, le décor est tout en relief.
Ça manque. Il n'y a pas de côté épique. Tu t'attends à voir les chariots de feu de Vangelis. Hein, tu t'attends à voir les chariots de feu de Vangelis quand ils vont mettre leur dernier piton dans la... Eh ben non. T'as l'impression qu'ils se font une balade pour arriver tout en haut. C'est pas facile, hein, mais c'est une balade.
Surtout quand on tient compte de leur tenue.
Oui.
Oui, mais c'est juste avec l'époque.
On a l'impression qu'ils sortent un tout petit peu du club de golf. Hein.
Oui.
Ah non, on est raccord historique, hein.
On est raccord avec les tenues de l'époque. Les mecs, ils avaient des tenues qui étaient dérivées de ce qu'avaient des paysans. Voilà, donc,
c'était les alpinistes et gentlemen aussi.
Là,
ils parlent un peu du matos. Tu fais ah ouais, d'accord, c'est le matos, c'est la pioche de la maison, quoi, hein, qu'ils disent comme purée. Ils vont pas chez Decathlon pour s'équiper.
Justement, le côté on monte, on est parti en balade entre copains, et un peu renforcé par ça, justement. On n'a pas la sensation de l'exploit. ça, il y a un peu ce côté, tiens, si on allait le faire, tiens, on le fait, quoi.
Moi, ouais, c'est ça qui m'a un petit peu marqué, c'est on se lève le matin, oh, si on allait se faire la montagne aujourd'hui, ah tiens, aujourd'hui, on va juste faire un repérage, oh, puis si on montait plus haut, allez, on monte plus haut, oh, on y retournera demain pour finir.
Il manque, enfin, disons que dans l'histoire, il manque un aspect un peu épique, un aspect un peu, je dirais un petit peu d'âme au personnage, qui ferait que justement, on aurait envie d'être à leur place.
Sauf j'ai que peur là, que ce soit trop historique, en fait, justement, dans ce sens-là.
En fait, on est totalement spectateur de l'action. Et à aucun moment, si tu veux, je pense que l'auteur nous a donné un petit peu un petit peu à manger, justement, pour nous faire rentrer complètement dans l'histoire. Ce qui, du coup, je pense qu'on peut passer à ce qui nous a plu, oui. Tu vois. Ce qui, moi, du coup, dans le scénario, m'a donné pour moi, le mot, c'était contemplatif, parce que, ben, justement, t'es là, t'es petit face à la grandeur de la montagne, quoi.
Oui, puis je pense que c'est plus proche de ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'effectivement, les mecs, ils l'ont pas pris comme un truc truculent, plein d'action, etc. Je veux dire, tu gravis pas ce genre de montagne-là avec la musique des chariots de feu derrière. C'est, tu passes 2 heures à réfléchir à comment tu vas le prendre, puis tu y vas tranquille, tu prends ton temps. Je pense qu'on est plus proche de la réalité, mais d'un point de vue narratif, bah, on perd ce côté fictionnel, en fait, qui fait qu'on va rentrer dans l'histoire.
Il n'y a pas d'histoire.
Voilà, on a l'impression qu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de structure narrative classique de la fiction qui aide souvent à accrocher. Maintenant, les choses très réussies, c'est par exemple ce troisième personnage qui les accompagne. Bon, j'oublie toujours les noms, mais dans ouais, la mais petite documentation de la fin, qui est bien foutue, ils te disent que ce personnage-là, justement, on en parle très très peu, en règle générale. Il n'y a aucun document qui nous montre à quoi il ressemblait. Alors qu'il y a des photos de Alexandre Burgener, qui était donc le guide local. Il y a des photos de Albert Frédéric Mamry. Mais l'autre, on en parle vaguement, et il est hyper absent. On sent qu'il est là, on sait qu'il a un rôle essentiel, parce que c'est lui qui trouve la voie qui va leur permettre de passer. Mais il est totalement en filigrane de l'histoire. Je trouvais que c'est très très dur de raconter un personnage, de parler d'un personnage qui n'est pas là et qui pourtant est essentiel.
Oui, mais pourtant, enfin, tu le vois même dans les, enfin, tu le vois dans les cases, mais à aucun moment il intervient. C'est personne, en fait.
En tout cas, au niveau de la, enfin, la petite notice de Nicolas Debon qu'il a écrite à la fin, donc il y a 2 pages, puis toute une bibliographie aussi qui montre qu'il s'est quand même vachement bien renseigné là-dessus, est très intéressante pour en apprendre un peu plus là-dessus.
On arrive quand même sur le dernier point, qui est quand même le dessin. Voilà, et là, là, je trouve que c'est quand même la grande réussite du bouquin.
C'est vertigineux.
Moi, c'est l'espace. C'est l'espace qui est représenté dans chaque case.
C'est une luminosité.
C'est 3 dimensions, mais qui sont gigantesques dans un si petit morceau de dessin. C'est impressionnant.
Les personnages sont très caricaturaux, la façon dont ils sont représentés. On est dans une technique de couleur directe. Vraiment, les personnages, ils ont des bouilles. Le guide, quand il fait la tête, c'est une gueule rigolote. Mais ça fait pas comique non plus. Et on a, de ces paysages, une façon dont est montré le soleil, la lumière sur la montagne, même la nuit, en fait. Et puis un travail de la mise en page pour montrer les actions lentes, les petits détails. Et puis de temps en temps, paf, la page qu'on prend en pleine gueule.
Mais surtout, voilà, c'est la page que tu prends en pleine gueule quand tu vois la mer de glace qui est dessinée.
Ouais.
Mais bah, tu retrouves un truc, t'as l'impression que c'est...
C'est de l'impressionnisme.
Ouais, voilà, tu es dedans, quoi.
C'est-à-dire que ça a un côté assez réaliste, mais on ressent les impressions, enfin les techniques que vous voulez mettre en place les impressionnistes pour nous faire ressentir le décor autant qu'il nous le montrait.
Je te rejoins tout à fait sur le côté impressionniste. Moi, ce que j'avais noté, c'était le travail de la lumière en crayonné, où on a vraiment cette lumière de la montagne à la fois bleue et avec le soleil qui est derrière, soit en rosé, soit en orangé en fonction de l'heure de la journée. Mais avec ce gros contraste de lumière entre une face éclairée et une face non éclairée, et où on nous dessine justement tous les reliefs, toutes les crêtes, tous les bords de reliefs, de montagnes, avec ce côté un petit peu irisé là de la tranche rosée ou orangée. Et c'est vraiment le travail des impressionnistes qui a essayé justement de capturer la lumière dans leur tableau. On est vraiment dans ce travail-là sur cet album.
En tout cas, moi, je suis resté sur le cul, sur le dessin. De même pour toi, Thio. Franchement, c'est un très beau boulot qui rend un bel hommage à la montagne. Voilà, seul truc, le petit dommage, c'est ce scénario qui n'est pas assez narratif, en fait, qui est plus descriptif.
Voilà.
Un peu trop pour nous mener dans. Voilà, pour nous prendre au trip. The Goon numéro 9.
Et ouais, le tome 9. Est-ce le tome de trop ?
Je te laisse en faire le résumé.
Tu cherches quoi ? Tu bouges ta main ? Ah, il bouge sa main. The Goon, tome 9. Donc, un petit résumé. On va toujours suivre l'histoire. Donc, du Goon et de Frankie. On serait mesquins quand même, ça.
Arrête de voler son micro.
Donc, il essaie toujours de combattre son éternel ennemi, Labradio. Et on va suivre comment...
Oui, Labradio, qui était l'ancien chef mafieux, qui est revenu...
Du coup a utilisé le prêtre, mais il a aussi...
Qui était l'ancien grand méchant.
Qui est aussi un grand méchant, mais en fait, l'homme de paille intervient, et qui en fait était le petit ami.
Et le prêtre est devenu sous la coupe de Buzard, qui l'emmène pour essayer d'arrêter la malédiction de Labradio, qui est en fait pas vraiment Labradio, etc. C'est compliqué
alors,
dit comme ça.
Alors, c'est compliqué dit comme ça. Ça devient... Alors là, je rentre directement dans la vie, parce que je ne veux pas non plus...
Attends, le genre, nous avons dit, c'était du mafieux bourrin.
Du mafieux bourrin. Moi, j'ai été très, très déçu. Je pense que voilà, soit Eric Powell arrête The Goon, soit il repart sur une histoire neuve, là, parce que dans le scénario, pour moi, il y a à peu près... il doit y avoir deux pages de scénario sur donc là il y a combien de tomes dedans ? Peut-être la réunion de six tomes, voilà. Donc il y a quand même 173 pages. C'est pas que je me sois à peu près ennuyé du début à la fin, mais pas loin. Et du coup, c'est très dommage parce que c'est une série qui était très
très plaisante.
Très plaisante,
légère.
Très punchy au début et tout, mais là voilà, ça part en quenotte, quoi. Et
moi, je trouvais ça super brouillon, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est en roue libre dans son scénario.
Il a plus d'idées, quoi.
Et qu'il tourne un peu en rond, qu'il sait plus trop où il va et qu'il improvise au fur et à mesure. C'est peut-être le cas dès le début, mais improviser, on peut pas faire ça pendant des années. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il se perd un peu. Et c'est dommage, il n'y a pas cette profondeur qu'on avait pu avoir dans d'autres tomes.
Disons que The Goon, dans les premiers tomes, était quand même, je trouve, un personnage qui était à la fois qui était bourrin, mais qui avait de l'humour.
Ouais.
Et c'est, entre guillemets, voilà, les blagues, elles tombaient bien, quoi.
Ouais, puis il y avait Frankie qui était là pour... Là, il y a tout un passage, par exemple, avec les mômes, avec le môme chien qui récupère.
Ouais.
Tu te dis, mais il a mis ça juste parce qu'il trouvait ça fun, mais ça ne sert à rien. C'est rigolo comme truc, mais je sais pas, tu fais un strip à côté.
C'est pour ça que
tu ne mets pas dans ça dans la BD.
C'est pour ça que je te dis que, du coup, le scénario, pour moi, il est vraiment pas épais, il a rien mis dedans. L'intrigue, elle commence à devenir assez lourde à traîner.
Trop d'éléments.
Parce qu'il y a trop d'éléments qui se croisent, et surtout c'est qu'on a des rebondissements qui arrivent, mais ils sortent de n'importe où, quoi. On avait rien qui pouvait nous donner une idée de ça avant, et surtout c'est qu'il y en a plusieurs en même temps.
Oui.
Et du coup, finalement, on se dit, ouais, tiens, il y a eu un super méchant truc qui arrive, et en deux pages c'est plié, alors que bon, a priori. Les personnages auraient dû normalement avoir beaucoup de mal à s'en sortir, quoi. Donc une grosse déception de Goon. Je pense qu'il va falloir soit qu'il se renouvelle, soit qu'il stoppe. Hein. Mais je sais pas comment sont les ventes aux États-Unis, mais je suis pas sûr que Delcourt continue.
Je sais pas comment sont les ventes en France. Au niveau du dessin, quand même.
Punchy, toujours pareil. Hein,
il y a une profondeur dans son dessin, je trouve. Mais
tous les personnages sont bien dessinés, c'est propre, c'est net. Le côté beaucoup vraiment carré du Goon et c'est grosse pelle à claque, quoi. Hein,
oui.
Et puis Frankie avec son petit air de fouine bien rond là, c'est non, tout est bien dessiné.
Graphiquement, moi, je trouve
graphiquement, c'est
toujours
super.
Le petit carnet de croquis à la fin.
Toujours le petit carnet de croquis à la fin qui est vraiment bien.
Des dessins originaux, d'autres
mais,
derrière.
Mais ça compense plus. Ça ne compense pas le scénario.
Sur les tomes précédents, on sentait que le scénario commençait à partir en vrille, mais le dessin permettait de se dire que c'est pas grave. Là, ça part un peu trop en vrille.
C'est dommage. Voilà. Passons à la suite.
C'est fort, très dommage. Ralph Azam, numéro 3. En fait,
tiens, je te rends le goon, vas-y, tu peux le dire maintenant.
Titi récupère les BD au fur et à mesure pour essayer de... Donc, Titi Isaac, il faut que je précise, parce qu'à force d'appeler Isaac, et comme on dit Titi de temps en temps, oui, c'est le même, récupère les BD pour essayer de pouvoir dire 2-3 mots au moment où on va en parler, sauf que bien sûr, quand on commence à en parler, on récupère les BD pour les refeuilleter en même temps, parce que comme on improvise quand même pas mal...
Attends, on va tenter un mot sur goon, Isaac.
Aïe. Oh, le jet de micro dans le nez.
Mais voilà, merci.
Donc, Ralph Azam, numéro 3 par les Lewis Trondheim. Ralph se retrouve en ville. Le résumé est super dur, en fait, je me rends compte.
Je suis très content que tu le fasses, d'ailleurs.
Ouais, parce que franchement, il est... Et puis en plus, c'est pas comme The Goon, il n'y a pas le petit résumé derrière de la
BD.
Non,
il va chercher la couronne du destin pour que sa sœur retrouve
sa mémoire. Voilà, retrouve la mémoire et se souvienne quelle est sa sœur.
Mais Ralph est quand même recherché par l'ensemble du royaume pour plusieurs meurtres, crimes et autres.
Qu'il n'a pas directement commis.
C'est ça.
Parce qu'il en a fait quelques-uns, mais il n'a pas directement commis les crimes. Ralph Azam, c'est de l'héroïque fantasy décalée. Totalement décalé. On retrouve la verve et l'humour un peu cynique de Trondheim au niveau de l'heroic fantasy, sa façon de contourner aussi un peu les clichés, tout en étant assez classique dans le ton. Moi, au niveau du scénario, j'ai mis roue libre. J'ai l'impression qu'on est un peu en roue libre. Trondheim est un peu tranquille, quoi. Il se laisse aller dans son histoire. Il se laisse complètement porter par ses personnages et l'intrigue qu'il a mis en place.
Moi, j'ai mis déçu.
Ouais.
Voilà. Donc, écoute, on se retrouve, hein.
Ouais, on se retrouve. Ah, moi, je suis pas déçu, quand même. C'est juste que, quand t'arrives à la fin du tome, tu te dis, pourquoi ça s'arrête là?
Ben oui, ben c'est pour ça que je suis déçu, parce que d'un coup, tu devais. C'est la fin du premier cycle, c'est ce qui est annoncé. On cherchait un objet pour faire une certaine chose, et puis bon, on arrive à la fin, et voilà, point, et hop, c'est fini. Là, tu te dis, ouais, mais donc, en quoi t'avais besoin de 3 tomes pour raconter ça, quoi?
Non, moi, j'ai l'impression d'être comme à la fin de Lapino et les cartes de Patagonie, de Trondheim, sauf que Lapino et les cartes de Patagonie, il avait dit, je fais 500 pages et j'arrête. Donc, quand à 500 pages, il arrête, tu fais. Pourquoi ça s'arrête là? Mais, parce qu'il avait dit, je fais 500 pages et j'arrête. Là, ça s'arrête et on se dit, on a l'impression qu'il a écrit une grande histoire, qu'il aurait voulu sortir dans un super grand album, et qu'il a dû découper assez à l'arrache en plusieurs tomes, et ça fait assez artificiel. Et je trouve ça un peu dommage. J'aime beaucoup, moi, le travail de Trondheim sur son improvisation. Je trouve que ça se tient. Il arrive toujours à se faire se recouper les choses. Il arrive à pas être si brouillon que ça. Alors, peut-être que c'est pas de l'impro, en plus. Peut-être que le scénar est super travaillé, etc. Mais il y a une façon de raconter un peu bizarre, ce qui fait que j'ai passé un très bon moment à la lecture. Je me suis vraiment éclaté. J'ai trouvé chaque petite trouvaille, chaque petit décalage des thèmes.
Tous les petits décalages sont excellents, sont vraiment bien menés, ça, je suis d'accord. Mais je pense qu'au niveau de l'histoire elle-même, en fait, ce qui manque, c'est un petit peu de lien entre les différents lieux où ça se passe et les différentes actions.
Puis un découpage plus clair entre chaque tome.
C'est très plan-plan, quoi. Alors que le gars, grosso modo, il est en train de faire un petit peu le voyage de l'anneau, quoi.
Oui.
Il va chercher l'objet magique. Que personne n'a réussi à avoir.
Oui, mais comme souvent dans du Trondheim, l'objet magique que personne n'a réussi à avoir, c'est souvent du flan, en fin de compte.
Oui, mais. Enfin, le voyage en lui-même, excuse-moi, mais ça fait un peu. Ouais, je prends mon sac à dos et j'y vais tranquillou, pilou. Sauf que bon, a priori, il a quand même tout le royaume qu'il cherche et il n'y a personne qui le trouve, quoi.
Et de très bonnes trouvailles quand il rencontre le roi, machin chose. Enfin, il y a beaucoup de retournements de situation. Enfin, très bien trouvé. Mais c'est vrai que voilà. On reste sur notre fin. Moi, j'ai envie de connaître la suite. Hein. Je continuerai à suivre cette série parce que je la trouve vraiment très prenante. Mais je sais pas trop où ça va. C'est un divertissement. Je veux dire, il sort pas ça pour faire quelque chose d'énorme. Mais le fin du premier cycle, un peu décevant, quoi. Et c'est dommage. D'ailleurs, le dessin, moi, j'ai mis qu'il était fun. Oui, parlons du dessin de Trondheim, quand même. On en a déjà parlé sur les autres tomes précédents. Vu la vitesse à laquelle il dessine, ça n'a pas beaucoup changé.
Et je crois que j'avais le même dernière fois, j'ai mis coin-coin.
Moi, j'ai mis fun.
Ouais, coin-coin.
Je trouve qu'il y a un dessin très fun. Je rappelle que c'est du dessin animalier, très très simple. Ou pour le coup, Trondheim qui a toujours utilisé des couleurs très en aplat, très classiques. Là est parti, enfin c'est Brigitte Findakli, son épouse qui fait les couleurs, qui est partie sur des trucs plus aquarellés, plus travaillés et des couleurs vraiment superbes. Voilà, moi je sais, pour moi c'est parmi les travaux de Trondheim, parmi les plus beaux graphiquement qu'il ait pu faire. Sachant que n'oublions pas que Trondheim a commencé le dessin en ne sachant pas dessiner avec Lapineau et les carottes de Patagonie. Il a dit « Hey, je vais faire 500 planches pour apprendre à dessiner !» Et il a sorti une BD. Voilà.
Il a fait des coins-coins.
Splash Page. Pour le bonus de cette splash page consacrée à la complainte des Landes perdues de Jean Dufaux, Grégor Zrozinski et Delaby. Je vais pas tenter le sketch rigolo qui ne fera rire que nous. Je vais tenter d'aller dans une vocation plus intelligente, car plutôt que de tenter d'être drôle, je pense qu'il est temps de faire preuve de culture. Oui, nous ne parlons pas assez de culture dans ce podcast. Nous ne traitons que de bande dessinée, c'est cet art un peu désuet qui n'intéresse vraiment pas les intellectuels. Complainte des Landes perdues, c'est quelque chose de très recherché et très profond. Déjà, une complainte, il faut savoir que c'est une chanson formée de nombreux couplets dont le sujet est le plus souvent sombre, voire tragique. C'est à l'opposé de la chanson de geste relatant des épopées héroïques et légendaires. Par exemple, la chanson de Roland était une complainte, il faut le savoir. Mais pour continuer sur la définition, parlons des Landes. La Lande, c'est une association de plantes qui dépasse rarement le stade d'arbuste et qui pousse sur des milieux pauvres, souvent acides et oligotropes. Non, mais c'est important. Et je pourrais aller encore plus loin en vous disant que quelque chose qui est perdu, c'est quelque chose qui est égaré et introuvable. De là à en déduire que Complainte des Landes perdues est un récit chiant sur des plantes qu'on ne trouve pas, il n'y a qu'un pas que je ne ferai pas, et je pense qu'on va directement passer sur notre chronique. Bon, j'espère que j'aurais pas été trop chiant et qu'on n'aura pas perdu les lecteurs.
Oh, ouais. T'as vu comme il se rabaisse ensuite.
Ouais.
Il se rabaisse pour mieux se remonter ensuite le mou, tu vois.
Ouais, pour que les gens après m'applaudissent dans les commentaires et tout.
Pierrick, tu étais beau dans l'effort.
C'est pas très radiophonique d'être beau dans l'effort. Complainte des Landes perdues est une bande dessinée qui a commencé il y a...
Ton corps recouvert de sueur qui était...
Très longtemps, je suis perturbé par ces propos-là.
T'as dit qu'il était beau dans l'effort, écoute.
Je ne sais que dire. Complainte des Landes perdues est donc une bande dessinée qui a commencé il y a très longtemps. Je crois que c'est 93 le premier tome. Je me souviens.
Donc longtemps avant Justin Timberlake.
Voilà, je me souviens, je l'avais acheté à l'époque avec mes petits sous. Ça avait dû me coûter 75 francs. Au moins, et qui avait donc comme scénariste Jean Dufaux, que je ne connaissais pas. Il avait déjà fait Jessica Blandy, dont j'avais beaucoup entendu parler. Mais il y avait surtout, et c'est pour ça que je l'ai acheté, Grégor Zrozinski au dessin. Et Grégor Zrozinski, c'était le dessinateur de Torgal, qui est une BD que j'ai toujours adorée. Enfin, toujours. À l'époque, je l'avais toujours adorée. Maintenant, c'est un peu plus difficile. Mais voilà. Grégor Zrozinski est un dessinateur qui maintenant est connu sur Torgal pour travailler en couleurs directes, de très jolies couleurs directes, même si parfois ça lui permet d'aller un peu vite et un peu dans l'approximatif. Et qui sur Torgal, dans les derniers tomes qu'il a fait classiquement, c'est-à-dire avec dessin ancré et colorisé par son épouse, Petra, ça commençait à être un petit peu fatigué dans les derniers Torgal quand même, hein, qu'il avait fait comme ça,
oui.
Genre Le Mal Bleu, Arachnéa et compagnie. Et alors, quand on ouvrait le Complainte des Landes perdues, le dessin de Rosinski, ce mec, il nous avait fait quelque chose, mais de fantastique. C'était du grand Rosinski, mais de toute puissance, avec un sens de la narration superbe, un travail du côté noir de l'histoire, du côté sombre. Ça mériterait qu'on ait du noir et blanc. Retrouver le Rosinski du Grand Pouvoir du Schninkel, mais avec des années d'expérience en plus. Ouais. Je suis peut-être un petit peu... Waouh.
Ouais, enfin là, t'es parti vraiment dans l'encensement total. Tu lui dois l'être quasiment là.
Oui, non, là, franchement, moi, quand je... Là, et là, je le dis, en les ayant relus il y a peu, et donc avec beaucoup de recul. À l'époque, je trouvais ça beau. Maintenant,
enfin... Non, je suis d'accord que c'est très, très beau. Le premier cycle est vraiment magnifique.
Donc, Complainte des Landes Perdues est une bande dessinée qui est prévue en 3 cycles. Le premier cycle est entièrement publié, a été fait par donc Grégoire Zrosnicki au dessin. Le deuxième cycle...
Il est en 4 tomes.
Donc en 4 tomes. Deuxième cycle, aussi en 4 tomes, vient de voir son
troisième
tome sortir. Et le quatrième est dessiné par Jean Delaby. Et le prochain tome, prochain cycle, n'est prévu pour dans... peut-être 10 ans. Philippe Delaby, pardon. C'est Jean Dufaux et Philippe Delaby.
Et il ne parlera normalement que des sorcières, le troisième.
Que des sorcières. Et pourtant, Complainte des Landes Perdues, quand ça a commencé, j'ai cru, et je pense que tout le monde l'a cru aussi, que c'était prévu en 2 tomes. Pourquoi ? Parce qu'il y avait déjà une trouvaille très sympathique de Rosinski, c'était que les couvertures des 2 tomes s'attachent pour faire une seule image.
Oui.
Ce qui est très joli. Et puis les 2 tomes suivants, il s'est arrangé pour que ça puisse s'attacher aussi. Donc, les tomes du premier cycle s'attachent pour faire une superbe image.
Allez, Isaac, amuse-toi.
Très jolie. Tu peux t'amuser, ils sont tous là. Voilà. Pendant que tu t'amuses, on va faire quelque chose qui n'est pas du tout radiophonique, on peut continuer à parler. Et puis aussi parce que, arrivé à la fin du deuxième tome, on avait l'impression que l'histoire était finie. C'est l'histoire de Siobhan, la fille des Sudaines, dans un monde imaginaire d'inspiration celtique. Où il y a de la magie et compagnie. Et donc, Siobhan est la fille d'un quelqu'un qui est mort de Wolf, je crois. Hein, je ne sais plus comment il s'appelait, son père, qui a été vaincu.
Le mage Bedlam.
Par le mage Bedlam. Et sa mère va se remarier. On est dans un thème très shakespearien. Hein, on est vraiment dans Hamlet. Et sa mère donc va se remarier. Avec quelqu'un qui a l'air super pas cool. Non, c'est tout en long. Avec quelqu'un qui a l'air super pas cool. Alors là, ils sont en train de travailler sur l'assemblage du puzzle des pages.
Un puzzle en 4 pièces.
Un puzzle en 4 pièces, et t'as eu du mal.
Et on a été 2 pour le faire.
Bravo les mecs.
Et où sont mes années Rubik's Cube ?
Voilà. Et donc, le gars en question, elle aime pas du tout. Il a l'air plutôt pas gentil. En fait, il a une tête de méchant. Hein. Le mec avec qui elle va se marier, c'est Lord Blackmore. Et on se rend compte que ce mec-là est maléfique.
En plus, il va épouser sa mère.
Voilà, que la mère en question, il l'a enchantée, entre guillemets. Et on voit comment est-ce qu'elle va essayer de reprendre le...
Enfin, la nuit de noces, c'est pas piqué des hannetons.
Oui, c'est... C'est assez dur. Puis on voit comment est-ce qu'elle va essayer de réagir face à ça pour empêcher la nuit de noces, justement, qui apparemment va sceller une sorte de pacte maléfique. C'est un événement qui ne doit pas avoir lieu. En étant aidée par Séamus, un chevalier du pardon, qui est une sorte de... Je sais pas, ça fait penser à un Highlander, tu sais, le gars immortel, tu lui plantes une épée dedans, il meurt pas.
D'ailleurs, les chevaliers du pardon qui sont donc l'histoire centrale du deuxième cycle.
Du deuxième cycle, donc... On suit en fait les origines de Seamus dans le deuxième cycle. Et donc on va suivre un peu comment elle essaie de s'en sortir. Je suis un peu brouillon dans mon... Vous m'excuserez. Avec une thématique très très forte, savoir si le mal est au cœur de l'amour ou si l'amour est au cœur du mal. Et c'est toute la dialectique de ces deux premiers tomes. Qui est contrebalancé dans les 2 tomes suivants, dans la deuxième série, où ils repartent sur ces thèmes-là, mais à l'envers, où Siobhan, elle, se retrouve maléfique. Qu'est-ce qui se passe ? Tu me regardes avec une tête...
Non, c'est qu'on avait fait... Non, vas-y, continue.
Voilà. Donc Siobhan se retrouve, elle, maléfique, et doit donc essayer de s'en sortir, c'est-à-dire qu'en gros, de s'en sortir, parce qu'en fait, l'objectif... des méchants, c'est de s'allier par le sang aux Sudaines pour devenir les maîtres du monde ou un truc dans le genre. Et là, bien sûr, elle doit être luttée contre Kyle of Clannac qui est tombé follement amoureux d'elle et qui ne comprend pas pourquoi est-ce que d'un coup elle devient méchante.
Oui.
Voilà pour le premier.
Ça, c'était de la vidéo. Ouais, hein. Isaac, il est surpris.
Voilà pour le premier cycle qui, en fait, contient purement 2 histoires.
Oui.
Two times.
Le deuxième cycle. Je vais te laisser parler parce que je parle trop.
Le deuxième cycle, donc on va retrouver donc un personnage du premier cycle qui est Simus, le chevalier du pardon. Sauf qu'on revient, on va dire, dans la jeunesse de Simus, qui n'est pas encore chevalier du pardon, qui est simplement novice justement à ce moment-là, et qui est justement donc au service là d'un chevalier du pardon qui est Sylvalt. Je sais pas si je le prononce comme il faut. Hein. Et qui donc va faire passer Simus en chevalier du pardon, qui va donc finir son apprentissage et qui va donc avoir pour but d'essayer d'éradiquer justement les démons qui vivent sur Terre.
Et non, les tomes du deuxième cycle ne s'accrochent pas. Et c'est triste.
Et ce que je trouve encore plus triste, c'est qu'ils sont numérotés 2, 3 et 5.
Ah oui, non, c'est parce que quand ils ont commencé le deuxième cycle, ils ont numéroté 5, le tome 5 de la BD. Puis après, ils se sont dit, oh, c'est un nouveau cycle. Si on reprenait la numérotation plutôt du début pour le cycle. Voilà, c'est un peu bizarre la façon dont c'est fait.
Ce qui fait que quand on te passe tous les tomes en vrac, là, on est carrément en digression totale, je t'avoue que tu es très emmerdé pour les lire. Parce qu'en fait, tu te dis, mais c'est qui le premier? Parce que je comprends pas, là, il y a 2-2, il y a 2-3.
Et oui.
Voilà, mais bon, c'est pas grave. Mais je pense que sûrement sur les nouvelles éditions, ça doit plus y être, ça.
Oui, je pense que sur les nouvelles éditions, ça, c'est réglé.
Mais ces BD, mis à part faire des puzzles et des jeux de pistes pour savoir dans quel ordre ça se passe, ça se lit aussi à l'intérieur?
Ouais, ou... ça se lit. Vas-y, continue ton résumé. Donc on suit. Et il doit lutter contre le Guinea Lord.
Oui.
Qui est envoyé par les grands méchants.
Qui est par les Morgan?
Morrigan.
Par les Morrigan, ouais. Parce que sachant aussi qu'une des Morrigan est retenue par les Chevaliers du Pardon pour qu'elle leur révèle justement les agissements de ses sœurs.
Ces sortes de sorcières, les
Morrigan. Voilà, ces sortes de sorcières. Et donc, qui leur révèle les agissements de ses sœurs et qui, en même temps, leur permet aussi d'avoir des informations sur les différents démons qu'ils peuvent rencontrer.
Ce qui est assez marrant, c'est que le lien entre le deuxième cycle et le premier est vraiment à rebours. C'est-à-dire que quand, dans le premier cycle, l'objectif, on le voit, des méchants, qui sont en fait des Morrigan, hein, ce qu'on comprend par la suite, c'est de se lier par le sang à la famille Sudaine, parce que ça leur permettra de contrôler toute la région, machin chose, derrière. Et là, on arrive en arrière, on entend un peu parler des Sudaines, etc., de ce qui s'est passé avant, on entend parler des origines derrière de Braga, qui était une des sorcières, qui est une des grandes méchantes contre laquelle a lutté le père de Sioban, etc. Là, on la voit à ses débuts. On va reculons. Je pense que sur le quatrième cycle, le troisième cycle, on va encore aller en arrière.
Je pense qu'on va
sur les origines des sorcières.
Origines des sorcières, oui. A priori, c'est là-dessus que c'est prévu.
Et là, pour le coup, la narration a totalement changé au niveau du scénario. On a vraiment des tomes complets, très riches, où il se passe beaucoup de choses. C'est des gros tomes hein, quand même. Tu regardes le nombre de pages, c'est assez conséquent. Vas-y, essaie de la téléportation de pages dans la main. Regarde le tome 3, le nombre de pages, tu vas voir, je crois que c'est du 68 ou un truc comme ça.
54.
Ouais, ce qui est. Donc c'est du gros bouquin et il raconte beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dedans. Et on a vraiment de l'histoire indépendante. Combien le tome 3? 54, c'est du 48, hein, le format classique. Hein. Moi, j'ai trop. Attends, on a failli avoir une chute d'Isaac.
Oui.
Oui, donc je trouve qu'au niveau de. On a vraiment de l'histoire plus indépendante.
Les histoires sont indépendantes, mais.
Avec un fil rouge.
Oui, mais tu as quand même un lien. Enfin, de toute façon, tu vas suivre l'histoire des mêmes personnages d'un tome à l'autre. Hein.
Oui.
Surtout dans le dernier où tu vas avoir justement le devenir d'un chevalier du pardon qu'on avait vu.
Voilà. Mais c'est vrai que dans le cycle précédent, on avait vraiment des diptyques bien clairement établis où il pouvait plus diluer sa narration et prendre son temps d'être un peu plus contemplatif pour montrer les beaux paysages qu'il voulait montrer derrière, etc. Enfin, pour être un peu moins dans l'action et dans l'histoire, en fait.
Bah, peut-être que justement, enfin, ça peut être une BD qui peut être intéressante dans le sens où elle a commencé en 90, donc du coup, tu vois, avec un autre style narratif. Et peut-être que voilà, ça suit un peu justement l'évolution aussi des lecteurs et. Peut-être que Dufaux essaye peut-être de coller davantage à ce qui, entre guillemets, à ce qui se vend, quoi.
Bah, ce qui est marrant, c'est que donc là, j'ai vu une interview de Dufaux qu'il avait fait pour la Fnac, où il disait que justement, maintenant, ses inspirations, c'était beaucoup les séries télé américaines. Et il parlait, par exemple, de Game of Thrones. Ouais, hein, t'as vu ça pas mal, de Game of Thrones, où il parlait de ces histoires très riches, avec des personnages secondaires très importants, qui savent quand partir, quand revenir, avec des fils rouges bien menés. On est exactement là-dedans. Maintenant, d'un autre côté, il te parlait d'un Mad Men en te disant que Mad Men, c'était un truc où il se passait toujours plein de choses, mais que ça arrivait à être lent. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas à reproduire cette lenteur dans les derniers tomes de Complainte des Landes Perdues.
Bah, je pense que justement, t'es plus dans l'action parce que le public a changé, les attentes du public ont changé aussi. Et du coup, il est différent. Et peut-être ce sera, enfin, peut-être que voilà, dans ce que là, il a commencé donc en 93.
Ouais.
On a attendu quand même 11 ans pour avoir le début du deuxième cycle.
Oui.
Il y a eu 8 ans entre le premier et le troisième tome. On peut dire que peut-être le cycle 3 arrivera aux alentours de 2020 ou peut-être il finira en 2030. Et peut-être que du coup, ce sera, tu vois, une bonne série étalon pour voir. L'évolution de la narration dans la bande dessinée.
Il faut voir aussi qu'on a aussi un aspect, je dirais, commercial, dans le sens où maintenant, attendre un an pour avoir la suite d'une histoire qui se finit sur un tadam, on commence à avoir du mal. Là, c'est vrai qu'on arrive à la fin de chaque tome du deuxième cycle, on a une histoire qui est posée claire, on a eu une intrigue qui s'est déroulée, on a le fil conducteur du cycle qui se poursuit, on pense qu'on aura les révélations sur le Guinée-Alord qui est le gros méchant juste derrière, etc. Chaque tome et ça, c'est pareil pour tous les cycles, est centré sur un personnage, en particulier, c'est le titre de l'album. Et donc, voilà.
Et donc, a priori, normalement, sur le dernier tome, ça devrait être donc du coup Sylvalt, parce que c'est normalement le nom du tome apparaître. Et c'est-à-dire, Sylvalt, c'est le chevalier du pardon qui initie Simus.
Voilà. Autant ça va être le prochain Guinée-Alord. Je sais pas, je dis une
connerie. En fait, c'est le jumeau maléfique du.
Ouais.
Ou alors c'était le mécanicien des montagnes russes comme dans Scooby-Doo, tu lâches le masque.
Bon, on vient de faire le tour du scénario, je passerai très vite sur tout ce qu'a pu faire Dufaux en tant que scénariste. Il a fait des tonnes de trucs. C'est parti, vite fait, les plus gros trucs: Barracuda, Le Bois des Vierges, Conquistador, Croisade, Jean, Giacomo C., Jessica Blandy, donc j'en ai déjà parlé, Murena, Niklos Koda, Rapace, Samba Bugatti, Les Voleurs d'Empire. Il a vraiment touché à des genres très très différents, des types très 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 variés. Moi, il y a juste une question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'il a choisi de faire cette bande dessinée dans un univers qui n'existe pas, alors qu'il y a vraiment beaucoup d'inspiration très 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 gaélique de façon générale. Il aurait pu le placer dans un univers existant. Il aurait peut-être réussi à faire ce qu'il voulait. Je ne sais pas. C'est un peu bizarre.
Ouais, mais du coup, ça te dégage en même temps aussi, tu sais, de tous les Stefanos qui t'auraient dit, ouais, là, ça ne peut pas être possible parce que la Morrigan, tu vois, elle fait tel truc, mais elle ne peut pas faire ça parce que ça, c'est sa cousine. En fait, là, t'es mélangé deux races.
Ouais.
Parce que du coup, là, ça lui a permis plus de liberté que s'il était vraiment enfermé dans toutes les légendes gaéliques, quoi.
Donc, je me suis longuement attardé sur le dessin de Rosinski sur le premier cycle. Parlons du dessin de Delaby. Donc, toi, tu connais, parce que tu as lu les Murena, que je n'ai pas lu d'ailleurs, il faudrait que je lise. Que penses-tu du dessin de Delaby ? Déjà, tout de suite, il s'est vite retrouvé en opposition avec Rosinski, ce qui passe quand même après lui, ce qui est toujours un peu difficile de passer après quelqu'un.
Ouais, mais enfin, six ans après, je t'avoue, oui, que je ne suis pas certain que.
Puis dans un style tellement différent.
C'est un style, moi je dirais très réaliste. Je sais pas ton avis.
Oui, oui, c'est réaliste. Oui.
Très réaliste. Après, moi j'ai trouvé ça différent de ce qu'il a fait sur
Murena,
justement. Parce que du coup, tu as toujours les traits au niveau des personnages, mais je trouve que c'est plus léger. Dans les visages, en fait, que dans Murena. Dans Murena, je trouve que les visages sont vraiment marqués, quoi. C'est un peu à la serpe, alors que là, du coup, c'est quand même beaucoup plus.
Fais un peu attention, le troisième tome qu'il a dessiné, il a changé de coloriste.
Ouais, mais ça change pas.
Voilà, non, mais
ça change pas le trait du dessin, parce que tu vois, je trouve que là, au niveau de même des visages des monstres, c'est quand même plus. Je trouve que c'est plus doux dans le dessin que ce qu'il a fait.
Oui, d'un côté, les visages de monstres dans Murena, il y en avait. Je l'ai pas lu, hein. Peut-être qu'il y a des monstres, j'en sais
rien.
Non,
mais tu comprends ce que je veux te dire. Je te donne ça parce que c'est toujours une page et je tombe dessus. Donc, bon, là, au niveau du mec qui est en train de canner, Honnêtement, je trouve qu'il a un visage vachement doux, quoi. Écoute, franchement, j'irais presque lui taper la bise, même s'il a l'air quand même vachement édenté. J'irais même lui taper la bise sur le front pour lui dire, vas-y, gars, tu peux crever en paix, quoi.
Voilà. D'accord. Bah, moi, j'ai trouvé ce dessin super joli. Le travail de couleur, je sais pas comment il travaille, parce qu'on sent qu'il y a, au niveau du dessin, il te pose toutes les valeurs de noir, de dégradé, de gris, etc. Il doit travailler en noir et blanc, en valeur de gris. Et le coloriste doit passer derrière pour rajouter ses couleurs. Et je pense que le travail du coloriste doit être très difficile.
Il doit être très long.
Et très long, parce qu'il faut bien respecter ce ton de gris qui sont posés derrière. En tout cas, moi, je trouve le dessin très sympa. J'ai un peu plus de mal. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il a un trait plus froid, je trouve, que Rosinski. Parce qu'il a quand même un trait un peu froid, je trouve. Avec le caractère design que je trouve que je trouvais vachement mieux sur le dessin de Rosinski, au niveau du travail sur les formes, sur les objets, sur les costumes, je trouvais qu'il y avait quelque chose de plus élégant que ce qu'on voit là, qui semble plus exagéré, plus brut. Le Guinée à l'Ord, par exemple, ça fait vraiment il y a un côté massif qui est intéressant sur le personnage, mais c'est limite caricatural.
C'est le gros méchant.
Tu vois?
Je suis sûr qu'il parle avec une grosse voix. Et autant il fait même.
Voilà. En tout cas, c'est une bonne série qui se lit bien, même si j'ai un peu plus de mal sur les derniers tomes parce que j'ai trouvé qu'on a perdu un petit peu de cette douceur qu'on pouvait avoir, enfin, au niveau de l'histoire qu'on pouvait avoir dans le premier cycle. Mais j'ai peut-être aussi un regard de... J'ai lu ça à l'époque où c'est sorti, le premier cycle. Voilà.
Et... Moi, j'ai tout lu d'un coup, là, quand tu me les as passés, du coup, avec la sortie du tome 3 du deuxième cycle. Et, alors, c'est vrai que tu notes, moi, j'ai trouvé une très grosse différence sur le dessin, c'est clair, entre le premier et le deuxième. Mais on y... Isaac valide aussi. Mais l'histoire, voilà, je pense que le changement de narration vient aussi du changement de...
Oui, le changement d'époque.
Du changement d'époque, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est... Quand j'ai eu le premier cycle, j'ai eu du plaisir à lire une longue et belle narration.
Une bonne vieille BD comme on n'en fait plus.
Ben ouais, non, on n'est pas loin de ça. Du coup, cette fois, ça me faisait penser un peu à Mézières et Christin. Valérian et Laureline. Voilà.
Ouais, avec sans les lourdeurs des premiers tomes de Valérian.
Voilà, pas les premiers tomes justement, mais on va dire
c'est du milieu
à peu près.
Ouais. Le premier cycle a été édité en intégrale, donc on peut le trouver en intégrale, donc pour pas trop cher, assez facilement. Le deuxième cycle, on attend bientôt le quatrième tome. Oui, Isaac.
Tu vous parliez de différence entre les deux premiers cycles en termes de dessin.
Oui.
On est aux antipodes. Hein.
Ah oui, je suis d'accord.
C'est assez phénoménal l'écart qu'il y a en restant sur la même
univers,
sur le même univers, sur la même saga. Je vais l'attaquer là puisque je vais les garder. Je pense que ça va être assez déroutant en fait de passer d'un cycle à l'autre, enchaîner comme ça l'un derrière l'autre.
Le lien semble ténu en fait entre les deux cycles. C'est assez difficile justement. Donc tu peux vraiment avoir l'impression de passer à autre chose. C'est tu gardes le même univers. Mais c'est pas du tout la même histoire. C'est comme quand tu vas lire du comics par un groupe d'auteurs d'un côté et un groupe d'auteurs de l'autre. La façon de raconter, la façon de dessiner va être totalement différente, mais ça peut être bien les deux à leur façon.
Oui, mais tu vas quand même retrouver un lien au fur et à mesure que tu vas lire le deuxième cycle, parce que ça va t'expliquer certaines choses que tu avais lues dans le premier.
Voilà. Mais c'est une histoire qui est assez ambitieuse. Et voilà, ce qui est difficile, c'est que le côté complexe de l'histoire est dilué dans le premier cycle, donc on arrive à peu près à suivre sans difficulté. Le côté complexe dans le deuxième cycle s'enrichit encore plus, avec de plus en plus de choses qui s'entrecoupent et qui se lient, et ça demande un peu plus d'effort pour savoir où on doit se retrouver, dans qui est le père de qui est le fils de qui, quelles sont les relations entre les différents personnages, etc.
Ce sera une série à relire une fois que ce sera terminé.
Voilà.
Pour remettre les choses dans l'ordre chronologique déjà, pour que ce soit plus simple.
Voilà.
Parce que là, le troisième cycle viendra encore avant le deuxième cycle.
Rendez-vous en 2023.
pour les 18 ans de nos enfants, je pense qu'on pourra faire une émission spéciale Complainte des Landes Perdues.
Ouais.
Donc ça va, on a le temps.
Eh bien, ma fille vient d'avoir son bac. Mmh. Je me souviens, à l'époque, je rentrais en troisième.
En 93, ouais, non, c'est ça, tu rentres...
Non, en seconde.
Ah si, tu devais rentrer, non, tu rentrais au lycée peut-être, ouais, 93.
Ouais. Voilà.
Et voilà, allez, bon, ben, bonne soirée, on s'est pris une bonne claque. On va peut-être clore sur les Complaintes des Landes Perdues.
Ouais, on a bien parlé.
Une bonne série à suivre, mais déjà avec le premier cycle, le début du deuxième, vous pouvez quand même, je pense, vous faire bien plaisir.
Online.
Tu as du online.
Ah yes. Et ouais, parce que tu vois, quand tu donnes des bibes à 4h du mat, eh ben en fait...
Tu t'emmerdes.
Tu t'emmerdes. Alors du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu allumes la télé. Et à 4h du matin...
Tu t'emmerdes.
Ben, depuis qu'ils ont arrêté Pêche et Tradition... Voilà, et ben du coup, ben, ça a quand même changé ma vie. Donc, ben, j'ai regardé Game One. Et là, sur Game One, j'ai vu, alors, je sais pas, c'est Funky Web, peut-être leur
émission. Ouais, c'est Funky Web, l'émission. C'est toi aussi.
C'est Funky Web. Et sur Funky Web, donc, c'était un truc sur les super-héros. Je suis tombé sur, petit reportage sur The Hero Factory.
C'est un vieux truc, hein. C'est un vieux truc. Depuis,
ouais, mais écoute, je me suis, ben, ils ont montré ça. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait une fois que j'avais couché le petit et il était sur le truc, sur qu'il se rendorme pas, enfin, qu'il se réveille pas et avant de nettoyer le bib. Et ben, je suis allé sur le site et j'ai fait mon héros. Et
là, alors, Zion Factory, ça permet de faire quoi?
Ben, on choisit donc, ben, le héros mâle ou femelle et ensuite on l'habille, on lui met des yeux, un nez, une bouche, une cape, une capuche, pas de cheveux, une barbe. On lui met plein de trucs, on lui donne des accessoires et à la fin on fait donc voilà j'ai fini et on a la première page avec notre héros de comic.
Voilà. Wow. Et donc tu as créé de nombreux héros comme ça?
Ouais, parce que du coup en fait c'est vite addictif en fait. Ça fait un peu comme les personnes qui jouent à WoW et qui vont choisir tel ou tel truc parce qu'en fait c'est plus joli pour leur personnage.
Ils vont créer 40 000 persos.
Non. C'est qu'en fait, tu prends pas telle robe, même si elle a des meilleurs pouvoirs, parce qu'en fait, c'est plus joli.
D'accord.
C'est esthétique. Mais heureusement, ils ont réussi à contourner la règle maintenant avec la transmogrification.
Oui, ok.
Voilà, c'est mais pas grave. Là, c'est un autre truc.
Ouais. Tu peux recréer des personnages de BD connus, etc.
Tu peux t'en rapprocher, mais tu peux pas recréer, je pense, des trucs qui sont sous licence. Quoi. Ça va être un peu compliqué.
D'accord. Alors, moi, je vais vous parler de Sponge Comics.
Ah, c'est moins drôle de suite.
Ouais, Sponge Comics. Sponge Comics, c'est un site qui se propose de proposer des BD numériques gratos en hebdomadaire. Voilà. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?
Rien.
Hein ? Je te sens mes 10 ans, là.
C'est la double redondance que tu proposes.
Ah.
Ouais.
D'accord. Nous avons donc 4 bandes dessinées qui sont disponibles gratuitement. Nous avons... De Bazaar en numérique. De Bazaar, c'était une BD qui était publiée format manga, je crois que c'était par Ankama, j'ai un doute, qui s'est arrêtée après je ne sais combien de tomes et qui reprend en numérique sur le site de Sponge Comics, ce qui permet à la série de continuer. Je trouve ça plutôt cool. Je les ai pas lus, j'avoue, parce que n'ayant pas lu les tomes précédents, je ne me suis pas lancé dans le sujet. Pendant ce temps-là, Thio fait hélicoptère avec le micro. Nous avons Gupila de Marc Lataste, qui est une série d'Heroic Fantasy, Thio est en train de me mordre le micro, d'Heroic Fantasy assez rigolote, qui malheureusement buguait un peu, était un peu lente quand j'ai commencé à la lire. Nous avons Console Girl de Nico Neda.
Vous venez avec moi, mettez votre grande chemise blanche et on y va.
Ouais, je crois que Thio est en train de pas se sortir.
C'est fini. Hein ? Petite boule rose et au dodo.
Donc Console Girl, c'est une histoire de mec, sa console devient une fille et prend vie, et voilà, pour le moment c'est juste le début. Nico Neda, il a travaillé dans un fanzine qui s'appelait Dream On à l'époque, avec une certaine Florence Torta, et donc qui faisait une BD qui s'appelait L'école des héros, tu vois. Donc c'était assez rigolo de le retrouver là. Et nous avons Limon par Mosky, qui est un truc qui a l'air assez fun, d'inspiration un peu western, un peu débile et un peu bourrin, bien cool. Une des particularités de ces BD, en dehors de la gratuité et du côté hebdomadaire et que ça fait beaucoup de pages, c'est que beaucoup utilisent le turbomédia. C'est-à-dire que ce sont des planches qui se succèdent les unes après les autres et en fait, le déplacement des cases apparaissent les unes au fur et à mesure pour créer du sens dans un même espace. C'est très joli. Eux, ils n'utilisent pas d'animation. Certaines personnes qui utilisent du Turbomedia font des petites séquences d'animation pour faire arriver les cases. Là, c'est pas le cas. C'est très intelligemment fait. Principalement, j'ai beaucoup aimé sur Console Girl l'usage qu'ils ont du Turbomedia. Les autres, c'est pas mal non plus. En tout cas, le site est bien cool. Pour le moment, ils n'ont sorti que les premières histoires. Ils voulaient le faire avant l'été. Ils se donnent l'été pour, je pense, bosser comme des bourrins, pour, dès la rentrée, passer en rythme hebdomadaire et nous proposer de la nouvelle BD régulièrement.
Bon courage à eux.
Ouais, bon courage.
C'est un beau projet, en tout cas.
Oui, c'est un très beau projet. Moi, je recommande grandement Console Girl et Limone, que j'ai vraiment, vraiment, vraiment trouvé très, très, très fun à lire. Eh ben...
Pas de courrier de lecteur ?
Non, pas de courrier de lecteur aujourd'hui.
Pas de laisser des messages sur iTunes, comme ça, du coup, on aura des amis, on aura plus de visibilité.
Mais si, toujours des messages sur iTunes et des étoiles.
Ouais. Et des j'aime pas sur Facebook.
Ouais, aimez-nous sur Facebook.
Quoi ?
Et des plus 1 sur Google Plus et des retweets sur Twitter. Et puis voilà, quoi. Tout ça, c'est sur notre site. Vous pouvez le voir.
Vous pouvez aussi nous envoyer des tablettes de chocolat, des t-shirts dédicacés, des petites culottes façon Madonna. N'hésitez pas.
Hein. Isaac est quelqu'un de très ouvert.
Très, trop.
Il aime les sous-vêtements mangeables. Sur ce, je vous dis à dans 15 jours.
Sur ce, je pense qu'il faudra quand même que nous fassions une chose pour les prochaines émissions. On ne finit pas au-delà de minuit. Hein. C'est parce que là, on est quand même allé trop loin. Peut-être.
Oh là là, qu'est-ce qu'on dit. Allez, ciao, à dans 15 jours.
Bon, ciao. Bye.
J'ai un fauteuil vide en face de moi. Isaac.
Isaac, es-tu là ? Isaac, si tu es là, fais-nous un signe.
Le problème du signe, c'est que pareil, c'est pas radiophonique le signe.
Oui, le signe comme dans Contre un Avant Perdu, le signe noir.
Ouais, non, tu sais, c'est consterné, pareil, c'est pas radiophonique.